Je m'appelle Sarah Normandin et je suis nutritionniste depuis plusieurs années. Ma passion, c'est d'apprendre à retrouver le plaisir de manger, de te montrer que ça peut être simple, mais surtout de t'aider à faire la paix avec ton corps et avec les aliments. Dans le podcast « Le maudit poids », prépare-toi à être surpris, à peut-être même être choqué par ce que tu vas entendre, mais fais-moi confiance. Le chemin vers la libération en vaut vraiment la peine. Prendre note que dans ce podcast, j'agis à titre d'animatrice. À noter donc que je ne peux endosser les propos tenus par mes invités puisqu'ils représentent leur opinion et expérience personnelle. En aucun cas, les propos tenus dans le cadre de cet épisode ne représentent des conseils nutritionnels personnalisés. Si jamais tu as besoin d'accompagnement, je t'invite à consulter le répertoire des nutritionnistes diététistes sur le site de l'Ordre professionnel des diététistes nutritionnistes du Québec, soit odnq.org. Merci et bonne écoute! C'est le mois de janvier, la culture des diètes bat son plein avec les publicités. Tu le sais qu'il y a des risques, tu le sais que ça ne fonctionne pas à long terme, mais tu es quand même tenté de les acheter puis d'en essayer encore un autre d'un coup que cette fois-là, ça fonctionnerait. Je t'invite à me rejoindre dans mon webinaire le 26 janvier à midi ou en rediffusion qui va être disponible également. On va en discuter. En fait, mon objectif, c'est vraiment de te donner toutes les informations sur le fonctionnement des régimes, des diètes, des risques puis de la non-efficacité, on va dire ça comme ça, à long terme, pour que tu puisses après ça aiguiser ton esprit critique puis faire un choix éclairé parce que tu vas avoir eu toute l'information. Je vais t'expliquer aussi comment ton corps fonctionne réellement par rapport au poids. Donc, qu'est-ce que ça fait de perdre du poids rapidement avec un régime, mais de le reprendre après? Pourquoi on le reprend? Puis c'est quoi les conséquences? Puis à l'inverse, il est où ton pouvoir, toi, par rapport à ton corps? Comment ça fonctionne le corps par rapport au maudit poids? Ben, c'est tout ça qu'on va regarder ensemble. Le lien est dans la description de l'épisode et également sur mon site internet et dans mes réseaux sociaux. On se dit au 26 janvier!
Salut tout le monde! Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Le maudit poids. Aujourd'hui, un super bel épisode de type témoignage. On se trouve avec Baptistine Boutéon. Salut Baptistine!
Salut! C'est une première pour moi, donc un peu stressée. Oui. Ça va!
Tu vas être excellente! On a commencé à jaser avant l'enregistrement, puis elle était déjà partie. Là. J'étais comme, oh mon Dieu, faut tout que j'enregistre, qu'est-ce qu'elle dit? Ça va être super intéressant. Baptiste, tu nous amènes sur un endroit que j'ai peu discuté dans le podcast au niveau des témoignages, puis je trouve ça vraiment fascinant. L'univers des MLM, en fait, donc... Je te laisse un peu t'introduire sur comment tu as atterri dans cet univers-là, puis on va aller voir un peu l'arrière-décor de tout ça, finalement, aujourd'hui.
Oui, bah écoute, avec plaisir. Alors, comment c'est arrivé dans ma vie? Bon, déjà, mon accent, moi, je suis française, donc je suis arrivée au Québec en 2019. J'étais enceinte de mon garçon à ce moment-là, donc aujourd'hui il a 3 ans. Je suis infirmière de métier et en fait, en 2020, j'ai accouché et tout, puis tout le monde sait que c'était la pandémie, right? Donc un peu d'isolement et tout. Puis dans les 6 premiers mois de mon postpartum, en fait, j'ai été très vulnérable dans mon postpartum. Mais je pense que à l'époque, je ne le savais pas. Et je ne l'aurais jamais verbalisé comme ça. C'est aujourd'hui, 3 ans plus tard, que je peux dire que j'ai été vulnérable. Mais sur le coup, je me trouvais donc bien bonne et donc bien forte.
Ah oui. Mais
il y a surtout quelque chose qui est arrivé dans mon postpartum auquel je ne m'attendais pas. C'est-à-dire que tout à coup, mon image corporelle est venue beaucoup me travailler. En fait, j'étais toujours en train de regarder mon poids. J'ai allaité mon garçon. À la base, j'ai allaité parce que je voulais le meilleur pour lui. Et puis, c'était semblait être l'allaitement. Et puis, ça m'a semblé naturel. Mais je suis restée focus sur un truc qu'on dit de l'allaitement. Entre autres, c'est par exemple, que j'allais perdre mon poids de grossesse. En sachant que mon poids de grossesse n'était pas... J'ai pas pris du poids de façon exponentielle durant ma grossesse. J'ai pris du poids de façon tout à fait classique. Et en fait, j'étais focus sur, j'allaite exclusivement mon fils. Pourquoi je perds pas mon poids de grossesse comme c'est écrit dans les livres
oui, hein.
Internet.
C'est vrai qu'on l'entend souvent comme avantage, entre guillemets, pour l'allaitement, mais c'est un couteau à double tranchant parce que c'est pas toutes les femmes, effectivement, qui vont perdre le poids de grossesse, que ce soit par l'allaitement ou non. Ça peut, comme dans ton cas aussi, avoir des effets, des répercussions qui sont vraiment négatives sur les comportements alimentaires, les comportements avec son corps, avec le mouvement aussi.
Ça rajoutait, je pense, à ma vulnérabilité, en facteur favorisant en tout cas, mon expatriation. Donc, j'avais pas vraiment de support ici à Montréal, c'est genre d'amis et tout, je veux dire.
Ouais.
Et puis, première vague de la pandémie. Hein. Donc,
oui, c'est vrai. Oh là là.
Tout était fermé, on n'avait accès à rien. Ça a été complexe. Sur le coup, je me rappelle que j'étais contente d'être dans ma bulle avec mon bébé, mais en fait, avec le recul, je pense que ça a alimenté le fait que, du coup, j'étais vraiment fragile et que je me disais, mais pourquoi ça ne se passe pas comme dans les livres? Vraiment, hein? C'est comme... Donc ça, puis j'en parlais pas parce que je ne parle pas de ma vulnérabilité en général. J'essaie de travailler dessus, donc c'est ça. Et puis... les règles ont commencé à se lever tranquillement, on a pu commencer à ressortir. Donc là, moi, je sortais avec mon bébé et tout. Puis moi, j'ai accouché au mois de mai 2020. Donc, c'est après l'été, l'automne, il fait encore beau, il fait encore bon, on va dehors, etc. Bon. Et dans une de mes sorties, je rencontre quelqu'un que je préfère ne pas nommer. Ça va rester vraiment anonyme sur cette partie-là. Je rencontre quelqu'un qui représente un MLM, évidemment, et qui, bien sûr, rentre dans la phase de séduction. Donc, s'ajoute aussi à ça, je rappelle du coup que ça fait moins d'un an que je suis au Québec avec un enfant en pandémie et que du coup, j'ai toujours pas vraiment de réseau social encore établi ici. Tu sais, il y a plein de choses là qui sont complexes. Et tout à coup, je me trouve donc bien valorisée, puis donc bien importante pour quelqu'un, c'est vraiment cool. Et en fait, je finis dans ce MLM, il y a des produits de beauté et tout. Bon, moi, c'est pas l'angle par lequel on va m'attraper, les produits de beauté. C'est pas, voilà. Et il y a des produits de nutrition. Mais il y a beaucoup de produits de nutrition et tout. Et là, ça commence, on commence à m'en parler. Et dans mes souvenirs, je pense qu'elle se sert justement du fait que j'ai accouché il y a quelques mois de ça. Donc à ce moment-là, ça fait déjà quelques mois quand même que je suis maman. Et que ça peut aider, qu'il y a d'autres femmes après leur grossesse qui ont trouvé des bénéfices au programme et tout. Ben, bref, comme tout un discours très bien rodé. Et puis ben, forcément, je tombe dedans là. Et je me dis, ah, magnifique, ça va m'aider. Parfait. Donc je signe. Je signe à la base comme cliente et pour un programme de 4 semaines. Et je suis à la lettre le programme. On s'évertue à me répéter que ce n'est pas une diète, mais c'en est une. Parce que je dois retirer beaucoup de choses de mon alimentation. Donc, c'est une diète. Et je dois faire beaucoup de changements aussi à mon alimentation. C'est-à-dire que c'est la première fois de ma vie que je me suis fait des shakes protéinés, par exemple.
Voilà, ouais.
C'est comme... La seule chose que je mixais, c'était mes soupes de légumes, quoi, avant ça. Là, tout à coup, je me fais des shakes protéinés. Et puis, je fais mon épicerie avec des listes. C'est-à-dire, oh, faut que j'achète ça, ça. Non, ça, c'est un aliment interdit. Juste pendant 4 semaines, qu'on me dit. Mais ça reste interdit. Donc...
Mais c'est pas une diète.
Non, c'est pas une diète, c'est un rééquilibrage.
C'est ce qu'on disait. Oui, mais c'est un bon point que tu amènes parce qu'on joue beaucoup avec les mots dans la nouvelle ère où on va parler beaucoup des conséquences de la culture des diètes, des régimes. On va vraiment jouer avec les mots dans cette industrie-là pour quand même aller chercher les gens puis masquer un peu le fait que ça demeure une restriction ou ça demeure une diète, ça demeure un régime. Des fois, on va appeler ça même mode de vie. Là, tu vois, rééquilibrage alimentaire, c'est vrai, on l'entend aussi quand même souvent.
Exactement. Eh bien, c'est tout un mindset, tu comprends?
Ah oui, le fameux mindset. Ça, ces mots-là, là. Quand on parle d'alimentation puis de poids, là, ça me...
Ouais,
ça me fait toujours réagir.
Et puis, il y a ce truc aussi de... Il y a un groupe privé sur Facebook où tu vas retrouver des recettes et puis des conseils. Puis, il y a comme des vidéos tous les jours. C'est très bien orchestré, c'est très bien fait, c'est très bien monté, je peux pas retirer ça. Et du coup, à ce moment-là, moi, je trouve ça super hot. Tout d'un coup, j'ai comme une communauté, ça y est, tu sais. J'ai l'impression que je connecte avec des gens, mais véritablement, aujourd'hui, on est 3 ans plus tard. Toutes ces personnes que j'ai rencontrées à ce moment-là ne sont plus dans ma vie, par exemple. ou de très, très loin. Mais à ce moment-là...
Ça parle quand même.
À ce moment-là, ils sont très présents. Ils sont très, très présents. Et bien moi, c'est ça. J'ai besoin de contact humain comme tout le monde. Donc, voilà. Et puis, je fais le programme, le rééquilibrage alimentaire, n'est-ce pas? Et il porte ses fruits, obviously. Hein. Je perds du poids, ça marche bien, mon énergie remonte, etc., etc. Après, on ne prend pas en considération qu'éventuellement, je suis maman, j'allaite exclusivement, j'ai un bébé qui se réveille encore la nuit. Donc, en fait, la fatigue, elle est juste normale.
Mais je fais une parenthèse, mais c'est vrai, ouais. t'as fait ça pendant que tu allaitais, alors que tes besoins nutritionnels sont quand même très élevés. Là, fait que ça comporte aussi des risques qui n'ont pas été pris en compte, là, finalement. J'imagine que tu n'as pas eu un rééquilibrage spécial allaitement.
Non, pas du tout. Non, pas du tout. De toute façon, moi, j'ai allaité pendant 2 ans, mon garçon. À un moment donné, je suis passée sur du mixte parce que j'ai eu des obligations médicales. J'ai été suivie au J-Wish et tout. Ça parlera à toutes les femmes qui ont allaité dans la région de Montréal. j'ai eu un suivi et j'ai été obligée de passer à du mixte pour plein de raisons. Ça s'est produit, je préfère le préciser quand même, avant mon rééquilibrage alimentaire. C'était vraiment quelque chose qui était intrinsèque à ma santé. Mais voilà, j'ai ça et tout. Je le dis plus ou moins, tu sais, mais quand même, c'est ça. Mais non, j'ai pas eu de rééquilibrage, j'ai pas eu de suivi, il n'y a pas de nutritionniste, il n'y a pas de vrai professionnel à ce niveau-là. Et moi, j'ai beau être infirmière clinicienne, à ce moment-là, mon esprit critique, il est comme parti dans les nuages. Il n'y a plus personne. Et puis c'est ça. Donc, je fais mon rééquilibrage une première fois. Marche bien et tout. Mais j'ai quand même des gros syndromes de sevrage, notamment avec la caféine. Vraiment. Des gros syndromes de sevrage. Là, pour le coup, ça, c'est l'infirmière de psychiatrie que je suis qui va prendre le relais et dire « Ok, j'ai fait mon sevrage. » Et c'était du sevrage qui n'était pas accompagné. On parle juste de caféine, mais on parle quand même d'un sevrage. Donc, voilà. Là, c'est parce que je pense que là, à ce moment-là, j'ai pris dans mes ressources personnelles et professionnelles pour me gérer moi-même dans mon environnement et passer au-delà du sevrage. Mais ça m'a pris 3-4 jours, je pense, à peu près. Parce que vraiment, le café et moi, c'est une histoire d'amour. Dans ce rééquilibrage, il faut le supprimer totalement.
Totalement, ok.
Sans, ne serait-ce que, mettons, le diminuer, par exemple, enfin, tu sais, sans mettre quelque chose par palier, ou tu sais, comme...
Mais c'est pas personnalisé à toi, puis à ce que tu consommais avant, à tes besoins, au fait que tu allaites, au risque potentiel, etc. C'est ce qu'il faut comprendre ici, là, ouais.
Ouais, c'est tout à fait ça. Donc, c'est ça, je passe au travers malgré tout, puis à la fin des 4 semaines que dure le programme, je me sens vraiment bonne, je suis passée au travers et tout, et puis... Je retourne à mes habitudes alimentaires. Et moi, mes habitudes alimentaires, c'est une personne qui aime ça manger. J'aime vraiment ça manger. J'aime ça manger le matin, le midi, le soir, entre les repas aussi. je suis cette personne-là. J'aime beaucoup le chocolat, j'aime les choses grasses. Puis je ne me gêne pas avec ça. Et donc, je retourne après mes 4 semaines à mon alimentation normale. Et il n'y a pas de suivi. Tu sais, il n'y a pas de... J'en fais pas particulièrement, mais personne m'en fait non plus, par exemple. On m'a juste vendu un programme ultra cher avec un suivi, un suivi par groupe Facebook interposé. Et c'est tout. Je retourne à mes habitudes, et ben je reprends mon poids, obviously. J'en prends même plus. Donc, c'est ça. Et là, j'étais déjà fragile. J'étais déjà fragile. Là, je suis passée par quelques mois compliqués. En termes de discours intérieur que je me racontais, j'étais vraiment comme la pire des personnes sur Terre. Là. On ne parle pas de la maternité ou autre, hein. On parle juste la pire des personnes sur Terre, que j'en ai donc pas de discipline et tout. Je ne me suis jamais parlé comme ça. Mm. C'est ça. Parfois, je suis un peu difficile avec moi-même, ça peut m'arriver, mais jamais au point, à ce moment-là de ma vie, jamais à ce point-là, par exemple.
C'est un bon point que tu ramènes, que tu soulèves, parce que c'est des discours que j'entends très souvent. C'est parfois même le genre de discours qu'on va avoir internalisé, puis on va vraiment penser que c'est notre faute si on a repris du poids, que c'est de notre faute, qu'on manque de volonté, qu'on aurait dû poursuivre, mais non, tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas fait pour fonctionner ce genre de programme-là, que ce soit régime, diète ou peu importe. quand ça ne répond pas aux besoins du corps, quand on promet une perte de poids, il y a déjà des red flags, tu sais, qui s'allument parce qu'en fait, le corps n'est pas conçu pour bien réagir à cette forme de restriction temporaire-là. En fait, c'est que si on fait une restriction pour qu'on puisse conserver le poids perdu, il faut le faire toute sa vie. Mais est-ce que c'est vraiment réaliste de le faire toute sa vie? La réponse est pas mal non pour la plupart des gens. Est-ce que ça a des conséquences? Il faut les évaluer, ces conséquences-là aussi. Il faut se faire une belle balance décisionnelle des pour et des contre, des conséquences sur sa santé physique, mais sur sa santé mentale aussi. Parce que perdre de poids égale pas meilleure santé. C'est la méthode va y faire pour beaucoup aussi. Le bien-être mental, le bien-être social aussi va y faire pour beaucoup. Fait que c'est vraiment des points qui sont super pertinents. Puis je pense que je vais le redire encore, c'est pas votre faute si ça n'a pas marché. C'est pas fait pour marcher à long terme. C'est fait pour fonctionner à court terme, mais à long terme, on a de la littérature scientifique qui l'a démontré que les régimes, les diètes, ça fait faire du poids en yo-yo, puis ça fait même prendre du poids au fil des années.
Oui, non mais oui, totalement. Mais du coup, à ce moment-là, tu sais, puis j'en parle à ma marraine, on va dire comme ça, parce que je suis toujours que cliente du MLM. Et c'est l'occasion idéale de continuer à me vendre des produits et tout. Puis bien sûr. Je les achète, hein, parce que
ça va marcher
dans le rééquilibrage. Donc, si je les rachète, ça va remarcher. C'est la
technique classique là, de la culture des diètes et des régimes. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça. C'est la seule industrie qui vit de ses échecs, en fait.
Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est fou. Mais enfin, donc voilà. Et puis je fais ça et tout, et puis tu sais, les mois se passent, et à ce moment-là, donc on est en 2021, et en 2021, fin d'année 2021, je signe pour devenir à mon tour, comme, je ne sais plus le terme, on va dire ambassadrice du MLM, mais je crois qu'il y a un autre terme là, parce que du coup, il y a un nouveau programme, une nouvelle session des 4 semaines qui serait en vient, puis tu comprends, je vais avoir une méga... réduction
sur le produit.
Et bon, bah donc, c'est toujours intéressant, une réduction. Puis ça a déjà marché une fois, donc ça va remarcher. Hein. Donc, je signe pour le programme, et puis c'est ça. Et là, je rentre dans un autre level du MLM. Je pense que moi, déjà, à ce moment-là, je commence à aller mieux aussi mentalement, puis j'ai repris le travail. Je suis retournée au travail, donc j'ai de nouveau un semblant de vie sociale. J'ai comme quelque chose qui me raccroche à ma réalité habituel avant le postpartum et tout et tout. Donc, mon enfant est plus grand aussi. C'est toujours un sommeil en dents de scie, mais ça va quand même pas mal mieux. Donc, ma fatigue est différente. Donc, bon. Mais je me raccroche quand même toujours à ça parce que j'aimerais bien les perdre quand même, ces fichus kilos de grossesse. Ce serait le fun. Donc, c'est ça. Et là, je signe, puis je rentre dans le programme. Puis là, tout à coup, j'ai des réunions toutes les semaines, genre de coaching pour le fameux mindset. Comment on approche les gens pour les enrôler et tout. Puis alors moi, je pense que ça a commencé à me heurter profondément à ce moment-là, surtout au niveau de mes valeurs intrinsèques. Moi, je restais infirmière, donc en fait, moi, le consentement des personnes, c'est la base dans mon travail, hormis urgence vitale immédiate. Mais à part ça, si quelqu'un ne veut pas de moi, ben, on ne veut pas de moi, et puis c'est votre droit. C'est comme, il n'y en a pas de problème. Je ne suis pas d'accord, mais d'accord. OK, d'accord. Je ne vais pas m'obstiner. Et à ce moment-là, ça commence à devenir challengeant à ce niveau-là, parce qu'il y a une phrase qui est dite un jour dans un de nos coachings là, qui m'a beaucoup heurtée, et je sais que je ne suis pas la seule pour en avoir parlé avec d'autres personnes à ce moment-là. C'est qu'un non peut toujours devenir un oui. Et là, je me suis dit, ah, fabuleux.
Ouch.
Et puis, je me dis, OK, Baptistine, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu es en train de faire, en fait? Dans quoi tu t'embarques. Mais pour autant, ça n'a encore pas allumé totalement ma petite lumière. J'ai comme un premier drapeau rouge qui se lève, mais je me dis, bon, on ne sait jamais et tout. Comme ce n'est pas dit par ma marraine, mais par quelqu'un d'autre, je me dis, ah, je ne suis pas dans cette équipe, alors c'est différent. Et puis, on m'invite à parler du programme en se basant sur le fait que moi, je suis infirmière, donc j'ai amené des trucs, tu sais, comme des trucs scientifiques, sauf que moi, je suis infirmière, je suis pas nutritionniste. Et puis en plus, moi, ma spécialité, c'est la santé mentale, c'est pas la gastro-entérologie, je sais pas quoi, par exemple. C'est pas... Là, c'est toutes les personnes qui font partie du MLM, comme genre, doivent le faire. Là, ça devient une obligation.
Ok.
Une semi... Tu sais, c'est déguisé. C'est pas dit comme ça, mais vu que maintenant, tu représentes le MLM... Si tu veux vendre tes produits, il faut que tu t'en serves. Donc, le programme commence tel jour, il faut que tu te commandes le kit.
Ouf, OK.
OK? Et nos marraines sont toujours payées sur nos commissions. Mais il y a toujours un truc d'argent aussi derrière là. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre, parce que je suis un peu naïve dans mon genre. Mais à un moment donné, j'ai dit OK. Et je refais le programme. De toute façon, moi, j'avais prévu de le refaire à la base. C'est aussi pour ça qu'on a réussi à me faire signer, ça me disant, ah, ça va te coûter 50% moins cher, blablabla. Je refais le programme une deuxième fois, mais là, mon rythme de vie a changé par rapport à l'année précédente. C'est-à-dire que je suis retournée, je suis retournée au travail. Je suis retournée au travail. J'ai mon fils qui est plus grand, mais du coup, qui demande une surveillance différente, par exemple.
Oui.
Je pense que au niveau moral, ça commence à aller mieux parce que je retrouve un semblant de vie sociale et de vie professionnelle et puis d'équilibre un peu là-dedans. Donc en fait, la deuxième fois, le programme, je crois que je le termine même pas. Et puis je suis comme, c'est quoi toutes ces règles? Ça me fatigue. J'en ai marre de faire des chèques protéinés. J'en ai marre de faire ci, j'en ai marre de faire ça. Il y a certains produits que j'aime bien dans le lot, tu sais, que je trouve sympa. Mais la majorité, c'est même pas bon.
Le plaisir,
Moi,
c'est important le plaisir aussi, la satisfaction,
oui, c'est
ouais.
ça. Moi, le goût, le goût de ce que je mange, c'est super important à la
Ben
rigueur.
oui, ben oui.
Mais j'en parle quand même sur mes réseaux. Puis là, j'ai des personnes, du coup, que je connais depuis longtemps, mais qui, eux, sont en Europe, donc en France, évidemment. Des personnes que je connais très bien, qui se permettent, et heureusement qu'ils l'ont fait, de venir me voir en privé, puis me dire, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'en fait, tout ce que tu dis et tout ce que tu fais, ça ne te ressemble pas du tout. Ce n'est pas la Baptistine qu'on connaît, qu'on a connue quand tu étais en France, avec qui on sortait, avec qui on faisait des soirées et tout. Donc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec tes chèques protéinés? Qu'est-ce que tu fais avec tes jus verts? Qu'est-ce que tu fais avec tes collations? Qu'est-ce que tu fais? Vraiment, j'en ai notamment une qui m'a dit. Si vraiment ça te fait du bien, écoute, tant mieux. Mais elle dit, mais elle dit, moi, à distance, je ne te reconnais pas. Donc elle dit, j'aimerais que tu te poses la question quand même. Et heureusement que ces personnes-là sont venues en privé parce que je pense qu'ils ont juste fini. T'sais. Moi, je commençais déjà à me poser des questions. Puis à voir bien que c'est le discours et tout, ça ne m'aidait pas particulièrement. Mais ces personnes-là sont venues en privé, donc des amis vraiment de longue date. Et heureusement qu'ils l'ont fait parce qu'en fait, ça a fini de me réveiller puis de me dire, OK, non, il y avait définitivement quelque chose qui ne fonctionne pas. Et mon poids, je ne l'ai toujours pas perdu. Donc, ça suffit. Et j'ai quitté le MLM au bout genre, de 3 ou 4 mois, là, un truc comme ça. J'ai dit, non, non, je démissionne. Et on m'avait promis qu'on resterait en contact, et puis tout ça, et puis tout ça, et puis tout ça. Puis en fait, aujourd'hui, toutes les personnes que j'ai rencontrées par ce biais-là ne sont plus dans mon environnement immédiat, même pas lointain, par exemple. Je dois en avoir encore quelques-uns sur les réseaux sociaux, mais il n'y a plus aucune
C'est
interaction.
tellement un point qui est intéressant que tu amènes justement. Tu sais, on dit souvent que ça va jouer sur la vulnérabilité, puis c'est ça qui mène à l'achat parce qu'on a beau avoir un esprit critique, tu l'as nommé tantôt, je suis infirmière, j'ai un bon esprit critique, mais il n'était pas là à ce moment-là. Mais c'est sûr, là, on va jouer dans l'émotif, on va toucher à la corde sensible, puis chez les femmes, on le sait, le poids, ça peut être une corde sensible. Quand il y a la grossesse en plus, le corps change, il y a beaucoup. Des fois, il y a des deuils à faire parce qu'on peut pas, ça n'existe pas le corps d'avant. Tu sais, c'est le corps qui continue à évoluer après la grossesse. Puis, c'est tellement valorisé de retourner dans ses pantalons d'avant, la même taille. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas tout le monde qui va vivre ça. Puis, c'est normal, puis c'est correct aussi. Mais d'aller peser sur cette vulnérabilité-là. Puis là, en plus, d'aller chercher le côté social aussi, comme tu dis, de se sentir vu, de se sentir écouté, de se sentir aidé, de se sentir. Tout ça, c'est là que ça devient comme, j'ai le goût de dire comme dangereux un petit peu, en tout cas, du moins vraiment inquiétant, parce
Écoute,
qu'après ça.
un petit peu quand même, je te dirais. Tu sais, quand j'étais cliente, je ne l'ai pas tellement osé demander parce que je n'avais pas le temps, puis je n'avais pas l'envie, par exemple. Mais quand j'ai signé comme représentante du MLM, là, j'allais aux événements. C'est comme si je devais y aller. Tu sais.
Oui, c'est
On
ça.
m'a jamais mis le couteau sous la gorge, mais c'était toujours très implicite quand même. C'était toujours très. Voilà. Et j'ai jamais rencontré autant de Français, par exemple,
Ah
que
oui.
dans ces événements-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de Québécois, là, attention. J'ai rencontré des Québécoises.
Oui, tout à
Voilà.
fait.
quand on s'expatrie, que ce soit au Québec ou ailleurs, partout dans le monde, peu importe la destination, on a tous le même besoin.
Oui.
On veut se refaire un réseau.
Oui.
On veut rencontrer du monde pour pas être isolé, quoi.
Ouais.
Et en fait, il y a un événement qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, qui était dans un resto et tout, puis je me suis dit, ouais, ok, quand même. On est quand même, en fait, on est tous des expats avec pas le même nombre d'années d'expérience, enfin, pas d'expérience d'expatriation, pas la même expérience professionnelle, etc., etc., mais on est quasi tous des expatriés, et en fait, on se retrouve tous comme un esprit de communauté là-dessus. C'est quand même, j'ai dit non, il y a quelque chose qui est pas sain. Là, on parle même plus du poids, mais c'est juste, il y a quelque chose qui est vraiment pas sain. Et puis, toute l'année, un peu plus d'un an, où j'ai été avec le MLM, que ce soit en tant que cliente, puis après comme en tant qu'ambassadrice, je vivais MLM, quoi.
Ouais, c'est ça. Ça devient comme une identité un petit peu, là.
Je pensais MLM, je respirais MLM. C'est un peu ça, malgré le fait que j'ai repris le travail au début à l'hôpital, puis après en GMF. Malgré ça, j'étais beaucoup axée MLM. Ah, faut que je fasse une story. Ah, faut que je fasse un post. Ah, comment je peux amener ça? Non, mais je veux dire.
Ça devient central. Ça devient comme mais presque identitaire, que justement, des fois, ça peut être qu'on se cherche. Ça peut être. C'est vraiment le danger, je trouve, d'aller chercher la vulnérabilité. Dans ce type de marketing-là, on le voit beaucoup au niveau du poids. C'est vraiment. On va soulever une inquiétude, une vulnérabilité. On va peser un petit peu dessus. Puis après ça, on va amener la solution. C'est là que, puis c'est pas des professionnels de la santé, c'est là le danger,
c'est ça
qui est problématique. On n'a même pas le droit de faire ça nous-mêmes, là.
Non, c'est ça.
On a des ordres professionnels pour protéger le public, justement, là.
Dans tous les process de recrutement, etc., en fait, on met beaucoup ça en avant. Tu sais que, en fait, la vision est différente, elle est plus holistique, elle est plus globale, elle est plus... Ouais. On fait le lien corps-esprit, tu sais, beaucoup de termes comme ça, qui sont très séduisants parce qu'aujourd'hui, on a tendance un peu à rejeter le système de santé comme il existe, en tout cas la médecine telle qu'elle existe en Occident. Et ils appuient aussi beaucoup là-dessus. Moi, j'ai eu plein de lives d'une naturopathe tout le temps où j'y étais, par exemple. Et je ne dis pas que ce qu'elle disait était faux, attention, ce n'est pas mon métier. Mais voilà, c'était vraiment le genre de discours qui était beaucoup amené et tout. Et moi, pour vendre le programme d'alimentation, on s'est basé... moi, j'ai amené beaucoup ce qu'on appelle le microbiote intestinal, qui avait déjà été abordé par d'autres personnes. Moi, du coup, je l'ai amené en disant, bah, c'est ça, ça existe, machin, tu sais, puis en prenant les études et puis tout, moi, l'aspect très, très infirmière, on va quand même partir de quelque chose de reconnu, par exemple.
Oui, mais c'est ça, en fait, c'est ça le... Puis on va le donner, leur marketing est excellent.
Ah oui, non, bien sûr, pour ça.
Il est anti-moral, mais il est excellent parce que c'est ça, ça va faire ce que les professionnels de la santé n'ont pas le droit de faire pour d'excellentes raisons, mais là, il n'y a comme pas de règles qui s'appliquent, fait que tout est permis, puis ça va être vraiment d'aller chercher tout ce qui est populaire, toutes les nouveautés, puis de le tourner en comme si c'était de la science, puis comme si le programme était appuyé sur la science, puis c'est là où on surfe avec... avec beaucoup de c'est comme vraiment inacceptable en soi, mais c'est sournois. Fait que c'est sûr que si on n'est pas déjà dans le milieu de la santé, qu'on n'est déjà pas au courant de comment ça se passe, c'est quoi la science, ça peut être facile d'y croire, ça peut être facile de tomber dans... On ne sait pas comment faire la différence, finalement. T'sais, on parle beaucoup d'esprit critique, mais ça peut être très difficile parce que c'est tentant, c'est bien fait, c'est pas juste des faits, on va pas juste chercher le cerveau, là, on va pas juste séduire le cerveau, au contraire, on passe beaucoup par les émotions, on passe beaucoup par tout ça, fait que ça devient, on fait confiance à la personne qui nous donne les informations, mais c'est des fois de prendre un temps d'arrêt aussi, puis de prendre ce petit pas de recul-là, comme tu dis, puis de faire, OK, est-ce que c'est vraiment la meilleure personne pour me parler de ça? Est-ce qu'elle a toutes les qualifications nécessaires? Est-ce que son discours fait du sens ou non? Si je ne suis pas certaine, je peux-tu aller valider avec mon professionnel de la santé? Parce que c'est normal d'être perdu. C'est vraiment ça, là. Il y a tellement de désinformations puis de mésinformations, surtout quand on parle de nutrition, encore plus qu'on parle de poids et d'alimentation, que on ne sait plus. On ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus ce qui est faux. On a appris des choses dès notre jeune âge. On a vu nos mères faire des diètes, des régimes. On pense que c'était la façon de faire. On pense que c'est appuyé par la science. Alors qu'aujourd'hui, on a tellement de données qui nous démontrent le contraire, mais on n'a pas, comment dire, on n'a pas le budget pour en parler comme on voudrait. J'ai le goût de dire ça, en ce sens où le système de santé, il fait son possible. Oui. La santé publique a fait une super belle job aussi, mais elle a tellement de choses à couvrir. On n'a pas le budget des grosses compagnies qui font beaucoup de sous sur le dos de la vulnérabilité des gens pour vendre ce message-là, j'ai le goût de dire. T'sais, on ne veut pas vendre un message, mais on veut sensibiliser, on veut éduquer, on veut que ce message-là se promène. Puis c'est un des objectifs du podcast, finalement, que ce message-là traverse les portes des maisons puis se rentre dans les salons des femmes qui nous écoutent. Mais c'est pas évident. Puis là, avec le monde des réseaux sociaux, c'est pire encore. Ça laisse place encore plus à une mésinformation, une désinformation qui est vraiment intense. On ne contrôle pas ça comme individu. Mais de là, l'importance de témoignages comme le tien, de dire, ben voici mon cheminement, voici ce qui s'est passé, voici les red flags, tu sais, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant, ça permet des fois, on va quand même vouloir l'essayer, puis c'est correct aussi, puis votre choix, ça vous revient, on parlait de consentement tantôt, c'est bien correct, puis je suis pas là pour juger ça, mais pas du tout, mais c'est de donner l'information, parce que des fois, on pense qu'on prend une décision libre et éclairée, mais pas éclairée, on n'a pas la vraie information, finalement.
Et puis, la décision, elle ne peut pas être libre et éclairée si on ne te laisse pas le temps d'y réfléchir.
Ah, la c'est base, bon, ça.
La base, parce que ben là, on va parler de consentement libre et éclairé.
Oui,
on
oui.
Des droits des patients, là. Mais ouais. la base d'un consentement libre et éclairé, c'est de donner toutes les informations que tu puisses, pour que tu puisses prendre une décision et de te laisser le temps de prendre la décision et de revenir avec des questions si tu as besoin de plus de détails, si quelque chose que tu n'as pas compris, enfin, ce genre de choses. Ça, c'est la base d'un consentement libre et éclairé. Moi, ce que j'ai vu, que j'ai vécu, que j'ai subi, mais je ne pense pas, par contre, j'étais une très mauvaise vendeuse, donc je pense que je ne l'ai pas. J'étais vraiment pas bonne dans mes chiffres. Hein. Pendant les 3-4 mois où j'ai été comme ambassadrice, j'étais vraiment pas... J'étais pas excellente là. c'est ça. Le truc, c'est la vente, faut qu'elle se fasse maintenant. Il faut que la personne, elle signe.
C'est un beau red flag, ça, si vous faites sentir une pression comme ça. Puis ça arrive souvent, t'as raison. Puis souvent, on va s'en prendre à des gens qui ont déjà une vulnérabilité. Des fois, l'estime de soi peut être même fragilisée. Dire non, puis mettre ses limites, ça peut être extrêmement difficile. On peut avoir peur de déplaire aussi. Fait que c'est là où c'est pas correct. C'est là où on voit toute la... C'est vraiment malsain comme technique, mais c'est ultra utilisé. Fait que si vous vivez ce moment-là, il y a un red flag, il y a un petit drapeau rouge là, qui peut se lever. Là.
Oui, c'est ça. Ben, si tu te sens comme mis sous pression pour sortir ton numéro de carte bancaire, c'est que... C'est qu'il y a quelque chose qui marche pas. Et là aussi, où ils ont clairement une longueur d'avance sur la santé publique ou le système de la santé, c'est que justement, tu as dit une phrase intéressante, ton podcast, il rentre dans les maisons des gens par l'audio. Mais en fait, justement, c'est aussi ce que les représentants des MLM font et c'est ce que le gouvernement et le ministère de la Santé ne fait pas. En fait, nous, on ne rentre pas chez autrui. Et en fait, il y a cette connexion en fait qui est créée. Moi, je pense que ça marche beaucoup aussi. C'est tout à coup, comme je l'ai dit, moi, c'est ce qui m'a attrapé au tout début. Tout à coup, tu te sens vue puis prise en considération. Tu sais, tu te sens comme individualisée. Et ça, je pense qu'on en a vraiment tous besoin. Donc,
Oui, puis peut-être, puis là, j'ai pas les études pour l'appuyer, puis c'est pas mon champ de pratique, mais ça serait intéressant de voir ce que les statistiques nous disent aussi sur le type de personne qui est attirée vers ce genre de produit-là ou qui se fait vendre plus facilement parce qu'il y a une plus grande vulnérabilité. Est-ce que ces gens-là, justement, ont de la difficulté à dire non? Est-ce que ces gens-là ont un plus grand besoin d'être vus, de rentrer dans une communauté? Est-ce qu'ils sont plus vulnérables? Si oui, pour quelles raisons? C'est des questions qui seraient super intéressantes à étudier.
Oui, vraiment, du coup, vu que tu en parles. Moi non plus, je ne sais pas si ça existe, mais tu sais, il y a vraiment ce truc, il y a vraiment ce truc-là, c'est très... C'est comme si tu prends un café avec presque une amie, là. Tu sais, c'est pas comme quand tu vas voir ton médecin pour ton check-up.
Non, pis, mais C'est un autre drapeau rouge, ça aussi. T'sais, si tu as l'impression que tu vas perdre cette relation-là, si tu sors du MLM, c'est un beau drapeau rouge, ça aussi.
Oui. Oui, ben, ça, moi, je sais que je l'ai vécu. Je sais que je l'ai vécu et quand j'étais cliente. Quand j'étais cliente, j'en parlais pas du MLM. C'est sur aucun de mes réseaux et tout, quasiment à personne. Je pense qu'il n'y avait que ma marraine et puis du coup mon conjoint, parce que bon, on vit ensemble, donc il était au courant. Il n'était pas chaud, mais il est du genre à me laisser faire mes erreurs là. Il y avait juste ces deux personnes-là, mettons, qui étaient au courant, par exemple. Il y a même ça aussi, ça aurait dû être un autre red flag, par exemple. Il y a même une partie de moi qui, déjà à ce moment-là, malgré la vulnérabilité, n'osait pas trop le dire que je suivais un rééquilibrage alimentaire. C'est la première fois et tout, il y a comme une partie de moi qui n'osait pas trop le dire, par exemple. Ouais, mais ça aussi, c'est un autre esprit. Ouais, quand tu n'oses pas dire que tu suis un rééquilibrage ou que tu as décidé de, je sais pas, couper les calories, enfin, un autre nom, là. C'est vraiment, ouais.
Ouais, c'est un bon point. Puis comment tu décrirais aujourd'hui ta relation avec la nourriture, ta relation avec l'activité physique? Est-ce que ça a été une courte période dans ton cas, une courte période quand même, plusieurs mois, là. Mais est-ce que tu as réussi à t'en sortir? Puis comment tu vois ça maintenant? Parce que on en a parlé, là, je le sais comme un peu, mais oui. je trouvais ça le fun comme message. Aussi, des fois, dans un petit message d'espoir, puis de dire, ben, on prend tous nos chemins différents, puis c'est pas des conseils personnalisés, mais comment toi, Baptistine, tu as réussi à?
Comment j'ai réussi à? Je pense que déjà, à partir du moment où j'ai quitté, quand j'ai dit non, là, c'est stop, en fait, ça marche pas pour moi. Quand j'ai quitté, je me suis vraiment retrouvée de nouveau seule, en fait, mais avec un meilleur état d'esprit, parce que vraiment, je pense que le temps a fait aussi son œuvre sur mon moral, on va dire ça comme ça, puis je travaillais, puis tout ça. Puis je me suis fait quelques amis entre-temps aussi ici, donc ça aide. Mais tout à coup, je me suis quand même retrouvée seule. Hein. C'est-à-dire, quand j'ai décidé de quitter le MLM, on m'a dit qu'on allait rester en contact, mais en fait, c'est pas vrai. Puis il y a une part de moi qui le savait, mais écoute, c'est comme ça. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte, c'est petit à petit, de toutes les habitudes que j'avais. Puis j'ai retrouvé mes produits un peu dans mes placards. Donc déjà, j'ai fait un énorme tri. Et puis j'ai demandé aussi, je me suis appuyée sur mon conjoint pour lui dire, écoute, il va falloir que tu me dises, tu sais, quand tu trouves que je suis trop attentive à la nourriture, mais tu sais, dans le sens où je fais trop attention à ce que je veux manger ou ne pas manger surtout, il va falloir que juste que tu me le dises, comme un petit rappel, ah, attention, là, tu fais peut-être un peu attention, je trouve. Tu sais, on avait comme un petit code comme ça, donc ça m'a beaucoup aidée. Et en fait, une fois de nouveau seule, c'est-à-dire sans plus aucun environnement du MLM, puis seule à devoir faire mes repas et puis à faire manger mon fils aussi. Moi, je pense que l'éducation alimentaire de mon garçon m'a beaucoup, beaucoup aidée. Parce que je me suis dit, non, je ne veux pas lui apprendre à se priver, là. C'est pas vrai. Je ne veux pas lui apprendre ça, donc je ne le ferai pas. Donc, chez moi, on prône par l'exemple. Donc, voilà. Donc, ça s'est fait petit à petit. Aujourd'hui, on est 3 ans plus tard. J'ai commencé une activité physique. Donc, je fais surtout beaucoup de yoga, mais en fait, et de la danse. Mais je le fais pour mon cœur. Je vais très bien, mais tu sais, je suis très... Là, pour le coup, je suis infirmière. Il faut que je prenne soin de ma santé. Mais je ne le fais pas pour le poids. Je ne regarde plus ma balance. Parce que je me pesais tout le temps. Hein. C'est ça aussi. Hein. Je me pesais constamment. Là, je me pèse plus. Tu sais, la balance est là, mais c'est plus comme quelque chose... comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête, par exemple. Et je remange quand même correctement, c'est-à-dire que j'ai de nouveau mon rapport à la nourriture. La nourriture est un plaisir, c'est un de mes plaisirs principaux dans la vie, c'est de manger. De manger gras, peu importe, de manger sucré, enfin, c'est ça. Je fais attention à la variété, mais c'est tout. J'essaie juste de varier mon alimentation, puis les goûts. Mais en fait, j'ai retrouvé ça, mais ça a mis du temps quand même. Et pour être... super, super honnête, il y a des fois, c'est quand je fais mon épicerie ou quand je passe devant des magasins comme Rachel Berry, ce genre de choses, où il y a des produits quand même qui sont vendus, des trucs pour les chèques protéinés et tout, par exemple. Tu sais, je vais regarder les rayons, puis je vais me dire, non, Baptistine, non, ça n'a pas marché. Et je vais passer, tu sais, au rayon suivant, puis je vais continuer, et puis je vais faire mes choses. Mais j'ai encore quand même, parfois, un léger point d'arrêt en regardant les choses, en me disant, ah, mais si, rien du tout, en fait, Justine. Mais c'est encore un discours intérieur. Et j'ai toujours pas perdu mon poids de grossesse.
Okay.
Voilà.
Non,
Mais ça,
c'est
je
un
pense
bon
que je ne
point.
le perdrai plus, celui-là. Je pense que c'est devenu mon poids, par exemple. Mais ouais.
Je serais
Mais...
curieuse de savoir, avant d'avoir ta grossesse, puis justement d'avoir cette vulnérabilité-là que le MLM est venu chercher, est-ce que ta relation avec ton corps était difficile? C'est des questions que tu t'es déjà posées, c'est des vulnérabilités que tu avais déjà perçues?
Alors, sur la question du poids, jamais. Sur la question du poids, jamais, c'était très nouveau. Je m'étais jamais posé de questions sur mon poids avant. Puis j'étais même du genre à dire, bah, si je grossis, je rachète des vêtements et puis ça ira bien comme ça. Et puis laissez-moi tranquille. Enfin, tu sais, j'étais beaucoup comme ça. Par contre, sur des questions sur plus globalement mon image corporelle et qu'est-ce qu'on pourrait penser de moi, tu sais, ce genre de choses. Oui, ça m'était déjà arrivé, notamment plus à l'adolescence, par exemple. Dans ma vie d'adulte, peut-être, dans ma vie d'adulte, vraiment adulte qui travaille, qui paye ses choses, qui s'assume, beaucoup moins. Mais si je dois remonter à l'adolescence, j'étais vulnérable, mais pas jamais sur le poids, ça n'a jamais eu lieu, mais plus sur, bah, à l'adolescence, c'était, oh là là, il va falloir que je m'épile, c'est ce genre de choses, par exemple.
Ouais,
Moi,
effectivement.
je pense pas qu'il y ait la vidéo avec le podcast, mais moi, je suis très pâle de peau. Puis moi, je ne bronze pas. C'est comme ça. Je fais partie des peaux qui ne bronzent pas. Mais à l'adolescence, c'était quelque chose qui venait beaucoup, beaucoup me chercher. Donc, ça, j'avais déjà ce rapport-là quand même au regard de l'autre. Puis je suis arrivée dans la vie adulte et ça s'est comme tranquillement tassé. Et puis, j'étais même plutôt très confiante. Et puis, le postpartum. Donc...
Mais c'est fascinant quand même parce que ça met en lumière que. Parce que tu sais, des fois, on peut penser, ah, oh, mais tu sais, elle était vulnérable parce qu'elle a toujours eu cette vulnérabilité-là ou elle avait comme une relation plus difficile avec son corps avant, des choses comme ça. Mais c'est ce que je trouve intéressant de ton histoire, c'est que ça montre que ça peut arriver vraiment à n'importe qui. On peut tous développer une vulnérabilité soudainement dans notre vie. Puis quand on pèse assez fort dessus puis qu'on se fait offrir une solution, ça peut venir vraiment avoir des conséquences qui peuvent perdurer dans le temps parce que là, tu le dis, ton discours intérieur n'est pas le même que ce qui était avant. Puis c'est un petit peu les suites de tout ça. Puis je veux dire, ça se travaille tout le monde. Là, c'est pas, je suis pas en
Oui,
train de dire que
non,
c'est horrible, là, mais c'est de prendre conscience de tous les risques que ça peut impliquer aussi si on prend la décision d'aller vers ce type de produit-là ou de régime-là ou d'accompagnement-là. Il faut prendre conscience que ça peut rester longtemps. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait pendant un certain temps puis qui ne vient pas après avoir des répercussions sur notre relation à la nourriture après, sur la relation qu'on entretient aussi avec l'activité physique, avec notre corps. Puis c'est ça qui est comme un petit peu touché aussi puis qu'on réalise pas. Donc, merci encore une fois de mettre ça en lumière.
Ben, écoute, y a pas de quoi. Mais ça prend du temps à le réaliser. Enfin, en tout cas, moi, je sais que c'est ça. Mais aujourd'hui, je pense que j'en suis vraiment sortie et tout. Mais c'est ça. Tu sais, il y a des fois, j'ai encore comme. Quand je vois un certain type de produit, ça va me rappeler. Tu sais, il y a des choses que j'ai achetées qu'à cette époque-là de ma vie, par exemple. Je sais pas
Oui,
comment l'expliquer, mais.
tout à fait. Oui, non, mais je trouve ça fort quand même. Tu sais, ça démontre vraiment l'emprise que ça peut avoir,
Ouais,
même
vraiment.
après, même longtemps après, même quand il y a un travail qui a été fait. Fait que c'est ça. Avant de se lancer, si vous êtes encore dans le avant de se lancer, ou même si vous êtes dans le pendant, puis si vous désirez continuer, c'est des éléments à mettre dans sa balance décisionnelle. Je pense que c'est super important à réaliser parce que ça, ils ne disent pas, évidemment. Là, t'sais, on vend les côtés positifs, mais comme on le dit, ce n'est pas une décision éclairée dans le sens qu'on ne nous vend pas les conséquences potentielles parce qu'il y en a. T'sais, on parle beaucoup des conséquences plus mentales, mais les conséquences physiques, il y en a aussi des crises de carence nutritionnelle. J'en ai vu. Dans les pires cas, avec certains produits, des fois, il y a des toxicités qui peuvent arriver, des contaminations avec des métaux lourds pour certaines compagnies. Ce n'est pas toutes des compagnies qui sont inspectées au niveau de la qualité puis l'innocuité non plus. Donc, il y a des risques, même si ça semble être inoffensif, même si c'est des produits naturels, des vitamines, des choses comme ça, même des macronutriments, il peut y avoir des risques si on ajoute certains produits ensemble. Donc, toujours garder ça en tête aussi. Puis que les gens qui nous conseillent, c'est comme toi, tu allaitais, tu t'es fait recommander des produits, est-ce que c'était vraiment Est-ce que tu étais vraiment inoffensif? Est-ce qu'il y avait des risques? Est-ce qu'on t'a expliqué les risques? Donc, de garder tout ça en tête, ça peut nous aider aussi à remettre le tout en perspective, ce qui est normal de ne pas être évident quand on est dans l'émotif, mais c'est là qu'on peut s'entourer de professionnels de la santé quand on hésite pour aller chercher de l'information. Il ne faut pas hésiter. Je sais que ce n'est pas toujours évident, là, mais quand on a cette possibilité-là. Ouais.
Mais ouais, mais c'est ça. Je ne sais pas quoi ajouter. Mais oui, attention aux conséquences sur le long terme.
Oui, merci. Ouais. Merci beaucoup. Honnêtement, ça va faire du bien. Tu sais, comme je disais d'entrée de jeu, c'est un témoignage qui est différent de ce qu'on a déjà entendu par le passé. Tu sais, toi, c'est un épisode, si on veut, qui s'est prolongé sur quelques mois, mais c'est bien de mettre en lumière que même un épisode peut avoir des répercussions. Donc, merci énormément pour ton beau partage. Je pense que ça va résonner chez plusieurs femmes.
Bon, ben écoute, tant mieux. Et avec plaisir.
Donc, merci énormément. Puis pour les autres, on se revoit bientôt pour un prochain épisode. T'écoutes le podcast et tu te dis « Oh wow, ça me parle, mais ish, j'y arriverai pas toute seule, j'ai vraiment besoin d'avoir un accompagnement personnalisé. » Bien, ça tombe bien parce que j'offre des consultations individuelles partout au Québec. Je t'invite sur mon Linktree, sur Instagram ou mon Facebook ou encore sur mon site internet pour en savoir plus. Merci de ton écoute. Si jamais tu as des commentaires ou des suggestions sur le podcast, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux Sarah Normandin, nutritionniste, Facebook et Instagram. Tu peux aussi consulter mon site internet sarahnormandinnutritionniste.com. Ça va me faire plaisir de jaser avec toi.